L'émission Histoire d'archives sur les ondes de fréquence Mistral Digne-les-Bains, nous sommes le troisième jeudi du mois. Bonjour Laure Franek, bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc et bonjour aux auditeurs.
Alors, vous êtes dans nos studios pour parler des événements qui viennent de se passer. Le 11 novembre est encore dans toutes les mémoires. Vous allez un petit peu remémorer tout ça?
Oui, parce que les archives ont organisé de nombreuses conférences, expositions, je ne vais pas revenir sur le programme des quatre dernières années qui nous a bien occupés aux archives. La semaine dernière, nous avons reçu Clémentine Vidal-Naquet, que certains auditeurs ont peut-être pu voir à la télévision, hein, parce qu'elle a été l'un des invités de la spéciale sur TF1 du 11 novembre. Donc c'est une historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale qu'elle a abordée sous l'angle assez original, hein, de l'intimité dans la vie des couples, et notamment comment les couples ont vécu bien ou plus souvent mal la séparation, le mari étant au front et son épouse à l'arrière. Alors elle nous a vraiment fait une très belle conférence où elle a présenté les correspondances sur lesquelles elle a travaillé. Elle en avait sélectionné pour son étude, hein, puisqu'elle a fait une thèse sur ce sujet, une dizaine de correspondances, avec un corpus de milliers de lettres. Et elle est donc revenue sur comment les gens vivaient cette séparation. Elle nous a présenté des documents d'archives assez originaux, j'allais dire, qu'on n'a pas forcément nous l'habitude de voir. Par exemple, elle a montré un petit sapin de Noël qu'avait confectionné une épouse. Alors, en l'occurrence, c'était une épouse allemande. Hein. Enfin bon, les problématiques étaient les mêmes, que ce soit côté allemand ou côté français, ou en termes de séparation en tout cas. Et donc, le colis devait être ouvert par son mari qui était prisonnier. Le soir de Noël, en même temps qu'elle. Voilà, c'était l'idée que la simultanéité comme ça de l'ouverture du colis et de la lecture de créer un lien par-delà la distance. Voilà le genre de choses qu'elle nous a présentées. Alors en plus, ce qui était vraiment bien, c'est que dans la foulée de sa conférence, on a pu entendre la compagnie Green Box, qui est une compagnie qu'on avait conviée à venir présenter leur spectacle écrit à partir des correspondances sur lesquelles Madame Clémentine Vidal-Naquet avait travaillé. Et donc ça faisait vraiment un lien intéressant.
Là, elle est venue à Digne, c'était Salle Abbé Ferraud, ça.
Salle Abbé Ferraud, tout à fait. Donc on a fait ça le comble, on était vraiment très, très contents. Et en plus, l'historienne et la comédienne ont animé, avec notre service éducatif, des ateliers pour le public scolaire aux archives départementales au cours de deux matinées. Donc on a pu toucher six classes du département, collège et lycée. Et en plus, il y a eu des représentations spécifiques pour le public scolaire de la pièce de théâtre deux après-midi, où là, il y a 600 élèves qui sont venus sur deux jours. Donc.
Et au niveau des élèves, toujours cette question, est-ce qu'ils sont, est-ce que ça les préoccupe 100 ans après ce qui s'est passé dans la guerre 14-18?
Alors justement, c'était l'intérêt de pouvoir présenter ces sujets-là par un biais assez original, qui n'est pas celui des dates de bataille, de la stratégie ou des opérations militaires, mais vraiment sous l'angle du quotidien, du vécu, comme on pourrait dire, de l'intime. Et ça, oui, ça leur parle. Ça leur parle de voir que les mots peuvent être très crus. Hein. L'historienne a par exemple présenté comment le désir pouvait s'exprimer au travers des courriers, elle est revenue sur le fait que en fait, s'il y a eu tant de lettres qui ont pu être écrites pendant la guerre, c'est notamment pour deux choses. C'est que l'école de Jules Ferry était passée par là, donc absolument tout le monde était en capacité d'écrire, même mal, même avec des fautes, d'exprimer leurs pensées. Donc ça, c'est une première chose.
Les fautes de 14-18 en 2018, je ne sais pas si les gens peuvent encore les voir.
Ah il y a des gens qui écrivent en phonétique, hein, oui. Vraiment. Hein. Ah. Ah bah oui, parce que tout le monde passait à l'école, mais tout le monde n'allait pas au-delà, n'allait pas très très loin, avait des fois juste quelques années d'école. Hein, il y a des lettres qu'on est obligé de lire à voix haute pour les comprendre, hein, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, les syllabes ne sont pas coupées aux bons endroits, donc il faut vraiment les lire, c'est du phonétique. Hein. Après, il y a aussi des gens plus... D'ailleurs, je vous lirai quelques extraits d'écrits de Poilu, où là où c'est quelqu'un d'érudit, de cultivé, donc là évidemment c'est le français est très beau, mais il y a des lettres qui sont vraiment, et de même, alors, elle donnait cet exemple justement de l'expression du désir, voilà, juste pour dire, donc les gens avaient un minimum d'éducation, arrivaient quand même à exprimer leurs pensées, hein, donc d'où ces lettres. En plus, le service postal vraiment était gratuit, hein, pour les soldats. Donc, on évalue à 6 millions de lettres par jour qui transitent. On est bien loin des chiffres aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'autres moyens de communication, mais à l'époque, c'était le seul. Donc, énormément de... C'est pour ça que quand on parle de la censure, il ne faut pas surestimer la censure, parce qu'en fait, les 6 millions de lettres ne pouvaient pas être passées par les fourches codines du censeur. Hein.
La censure était essentiellement dans la presse.
Oui, alors c'est vrai qu'il y avait des gens qui lisaient quand même les... Alors après, il y avait aussi l'autocensure, parce qu'on savait que potentiellement les lettres pouvaient être lues, et puis que bon, de toute façon, on n'avait pas intérêt à donner des informations trop précises sur les positionnements des troupes, parce que ça pouvait être tout simplement dangereux pour soi-même. Donc...
La fameuse Anastasie ne passait pas de partout.
Non, mais 6 millions de lettres, c'est impossible. Quoi. Je veux dire, il aurait fallu mobiliser plus d'une armée et l'armée était occupée à autre chose. Donc c'est. Voilà. Donc, ça, c'était. Elle est vraiment revenue là-dessus. Et par exemple, pour dire que. Alors, il y avait le désir. C'est quand même pas évident d'exprimer son désir. Déjà, aujourd'hui, c'est pas évident. Il faut se remettre début 20e. Et donc, par exemple, elle montrait une carte. Il y avait beaucoup de cartes un peu coquines, hein, qui circulaient à l'époque, où on voyait, alors, notamment celle qu'elle a présentée, où on voit un poilu. Alors, il est en costume. Hein, il est au lit avec son épouse. Et donc, c'est marqué 12 permissions. Hein, et le poilu qui n'arrive pas à exprimer, en fait, qu'il aimerait bien être avec sa femme, si possible au lit, en fait, écrit par-dessus la carte en disant « mais bientôt, ce sera notre tour ». Vous voyez, l'espèce de moyen détourné, parce que bah, c'est pas évident d'exprimer ça, tout simplement, déjà à l'oral et à l'écrit en plus.
Mais les gens étaient très prudes aussi à l'époque.
Oui, alors, faut pas... C'est-à-dire, on se fait une idée... voilà, par exemple, dans les correspondances qui ont été lues par les comédiennes, y a une correspondance qui est... alors, qui n'est pas érotique au sens où on pourrait l'entendre, mais... Alors, c'est amusant, le poilu et sa femme, en fait, personnalisent leur partie génitale. Donc, le sexe de l'homme devient Lulu et le sexe de la femme devient Lulette. Donc, et dans la lettre, donc c'est bientôt Lulu et Lulette seront réunis. Voilà, mais ils y vont, quoi. Enfin, je veux dire, on lit ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on se fait une idée de nos aïeux très prudes, etc. Mais vous savez, hein, le sexe est quand même préhistorique, hein, donc voilà. Donc c'est assez voilà. Donc
même chez les dinosaures.
Même chez les dinosaures, voilà. Donc donc voilà, cet angle-là a fait que ça a touché les élèves, ça a touché les adultes aussi d'ailleurs, parce que le thème de la séparation, le thème de comment vivre la séparation. Au-delà, ben, le thème du deuil, hein, parce que quand même pour beaucoup de personnes, tout ça s'est transformé en séparation définitive. C'est des thèmes qui sont éternels et qui peuvent évoquer, enfin être évocateurs, même si on n'est pas en situation de guerre, et fort heureusement.
Est-ce que dans ces lettres, ils parlent de leurs amis qui partent, enfin qui sont partis au combat et qui reviennent pas ?
Bien sûr, ils parlent de leur famille, de ceux de leur famille qui sont au combat, ils se donnent des nouvelles, en fait, hein, un tel est mort, voilà, non, mais c'est... Alors, si vous voulez, ça oscille toujours entre l'envie de rassurer, et puis c'est aussi un peu cathartique, c'est-à-dire besoin aussi de vider son sac, sans trop effrayer, donc voilà, puis on passe aussi par des moments de découragement, par des moments où on raconte les chairs déchiquetées, la violence, le sang, la maladie, les poux, les rats, et puis des fois, eh ben, on s'accroche à quelque chose qui donne de l'espoir, on se préoccupe beaucoup, si on en avait parlé avec la correspondance d'Augustin Richaud, des travaux des champs, si on a agriculteurs, de comment ça se passe dans l'entreprise, si on travaille dans une entreprise. Voilà, parce que c'est une manière aussi de se raccrocher à sa réalité, de ne pas perdre pied. Et puis les femmes parlent aussi de comment elles vivent, c'est-à-dire comment elles s'en sortent avec l'exploitation agricole, avec la ferme, comment elles s'en sortent avec l'entreprise. C'est des fois dur, des fois elles s'en sortent très bien. Donc c'est tout ça, et ça c'est vraiment intéressant d'aborder la guerre sous cet angle.
Et rien n'était fait pour saper le moral des uns et des autres. Enfin, ils essayaient du moins.
Ben, écoutez, c'était déjà dur. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, soit on a envie de rassurer, effectivement on occulte certaines choses, et puis parce que ça peut être aussi douloureux pour soi de les écrire. Et puis il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher de dire combien c'est dur, hein, de dire, et puis de dire sa peur, parce qu'on a peur des deux côtés. Les femmes ont peur de ne pas voir revenir leurs époux, et les hommes ont peur de ne pas voir, de pas revenir voir leur famille, leurs enfants. Donc elle parlait de 600 000 veuves. 600 000 veuves officielles. Après, il y a toutes celles qui n'étaient pas mariées, qui sont plus difficiles à pister. Il y a ce qu'on appelle aussi les veuves blanches, qui sont en fait les fiancées, qui étaient engagées dans un futur mariage et qui n'a pas pu aboutir.
Voilà. Ça s'appelle les veuves blanches.
Les veuves blanches, oui. Voilà. Et voilà, elle a aussi parlé, on en parle un petit peu moins, mais des séparations, les poilus qui reviennent et les divorces qui sont... Bah oui, parce que des fois, vous êtes absenté pendant 4 ans, il a pu se passer des choses des deux côtés d'ailleurs.
Dans les tranchées, il se passait moins de choses que dans les champs.
Oui, alors il y a eu des bordels de campagne quand même organisés à la fin de la guerre. Hein.
Voilà. Bordel de campagne, ça reste avec des filles de joie entre guillemets.
Oui, mais ça pouvait ne pas forcément plaire à l'épouse légitime, oui, qui était restée à l'arrière, qui n'avait peut-être pas très envie. Oui, c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est sûr que. Et comme on interdisait aux épouses de rejoindre leur époux sur le front, voilà, donc il y a eu ces fameux bordels de campagne. Donc il y a eu des séparations définitives, des divorces prononcés à l'issue de la guerre, aussi parce qu'il y a un phénomène de rattrapage, hein, puisqu'il n'y a eu aucun divorce évidemment pendant la période de la guerre, donc évidemment il y aurait pu y avoir des divorces qui ont été reportés après la guerre.
Voilà. Et le nombre de divorces après la guerre, il a été énorme.
Je ne sais pas si elle l'a donné. Je ne peux pas vous le dire. En fait, il a été plus important qu'une période dite normale, mais aussi parce qu'il y a ce phénomène de rattrapage, en fait. Parce que comme il n'y a eu aucun divorce pendant 4 ans, voilà. Donc évidemment, ça, comme je vous l'ai dit, ça s'est déporté sur après 1918.
Et est-ce qu'au niveau de la fréquence des courriers qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, vous avez pu également faire une courbe d'assiduité, entre guillemets, savoir si les gens s'écrivaient avec assiduité, plus ou moins au début, ça s'estompait petit à petit?
Non, mais je pense qu'ils écrivaient dès qu'ils pouvaient. Hein. C'est vraiment dès qu'ils avaient un bout de papier, souvent du crayon à papier. Hein. C'est pour ça que les lettres sont des fois difficiles à lire aujourd'hui, parce que le crayon à papier, hein, ils écrivaient tout petit pour économiser le papier, et souvent crayon à papier qui a un peu passé depuis. Donc non, 6 millions de lettres par jour, vous imaginez, quoi. C'est énorme, énorme, énorme. Et sans compter les colis, etc.
Et comment ces courriers pouvaient être... rapatrier aux épouses, parce que c'est dans les tranchées, il y a de la boue,
comment ça se passait concrètement,
dans quel état étaient ces courriers, parce que c'est pas comme on peut l'imaginer, oui. Aujourd'hui on met une lettre dans une boîte à lettres.
Non, alors après concrètement comment ça se passait, je l'ignore. Après c'est certain que vu comment les lettres sont rédigées, parfois l'écriture un peu déformée, c'est clair que parfois c'est écrit dans des conditions difficiles, genre sur le genou, voilà, c'est un peu à la va-vite. Après c'est quand même un peu travaillé, hein, puisqu'il y en a certains qui écrivent avec de l'encre sympathique quand ils veulent dire des choses, il y a même des fleurs séchées. Alors, je veux dire, c'est qu'à dire, on attend beaucoup. Vous savez, en fait, on s'imagine. La guerre, c'est évidemment des combats, mais la guerre de 14-18 en particulier, c'est une guerre où on attend énormément et où du coup, on s'ennuie beaucoup et on a peur. Donc, on a le temps d'écrire. Après, est-ce qu'on est dans les bonnes conditions matérielles ? Est-ce que ça, c'est autre chose ? On n'est pas tout le temps en train de se battre, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc on attend énormément. J'avais été très frappée, moi j'avais visité l'historial de la Grande Guerre à Péronne, où ils ont reconstitué en fait dans les souterrains avec des ambiances sonores justement l'attente qui a duré des jours et des jours. Il faut imaginer ces hommes enfermés sous terre qui savent qu'à un moment donné ils vont sortir pour aller à la boucherie, hein. Et donc ils avaient reconstitué avec des bruits de cliquetis, voilà. J'avais pas trop aimé d'ailleurs cette visite parce que c'était assez très très anxiogène. Et on était un peu pris au piège, vous voyez, vous étiez sous terre. Bon, ben, c'était l'effet recherché.
C'est ça, oui.
Mais c'était vraiment anxiogène. Il ne fallait pas être claustrophobe ou un petit peu sensible. Ça m'avait beaucoup, beaucoup retourné. Mais voilà, ça explique bien. Ils attendaient énormément, quoi. Et donc effectivement, ben, ils avaient le temps de penser à leur famille et d'écrire quand ils le pouvaient.
Et la peur de la mort, ça se, comment ça se représente ?
Comment ça s'exprime ? Oui. Ils ont, c'est pas tant la peur de la mort, c'est que la peur de ne pas revenir. C'est, oui. C'est ça, c'est le fait de pas retourner chez soi. Et ils savent que potentiellement, c'est quand même fort probable. Donc c'est dur.
Parce qu'au départ, ils sont partis plus ou moins la fleur au fusil, en pensant que ça n'allait pas durer très longtemps.
Oui, alors bon, la fleur au fusil, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu surévaluée, j'allais dire. Mais c'est certain qu'on ne pensait pas que la guerre durerait si longtemps. Mais parce qu'on d'abord, on avait une supériorité numérique. Voilà, mais voilà, les gens ne partaient pas forcément de gaieté de cœur, loin s'en faut, enfin les soldats, mais c'est certain que personne n'a imaginé en août 14 que ça allait durer si longtemps.
En pleine période de moisson, en plus.
Voilà. Après, c'est sûr que, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au début, les lettres sont quand même plus optimistes, puis il y a un phénomène de découragement, notamment en 1917. Hein, alors on se dit, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter, et puis on voit les gens, franchement, mourir. Voilà, donc voilà, on voit une évolution hein, dans la teneur des lettres. Hein. Mais bon, après, les lettres, par définition, c'est très, très personnel et j'allais dire, chacun a vécu un peu sa guerre, pas à sa manière, mais en tout cas, elle l'a exprimé à sa manière.
Est-ce que les mutineries sont transposées quand les gens écrivaient, est-ce qu'ils étaient au courant des mutins ?
Ben ça, c'était vraiment typiquement le genre de lettres qui pouvaient être potentiellement censurées. Hein, donc ça,
mais c'est toujours pareil. Il y a peut-être moins de 6 millions de lettres par jour à la fin qu'au début, forcément. Ouais. Mais pour faire le tri, comment ils pouvaient savoir que les gens correspondaient par rapport à ça, en disant que le moral était vraiment au plus bas, qu'il y avait des gens qui se rebellaient, qui revenaient.
C'est-à-dire que là où il y avait des mutineries, je pense que le censeur s'intéressait un peu plus attentivement au courrier de ces soldats-là. Et puis, je vous dis, il y avait une autocensure. On savait que potentiellement, les lettres pouvaient être lues. Donc, les gens ignoraient qu'il y avait 6 millions de lettres qui passaient par jour. Hein, donc, je disais qu'ils étaient surveillés. Donc, ils faisaient très attention. Par exemple, elle a montré Clémentine Vidal-Naquet. Elle a une correspondance où en fait le poilu envoie, alors c'est à sa fiancée, une fleur séchée quasiment dans beaucoup de ses lettres. Alors, au début, elle n'a pas prêté attention. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'en fait, sur la tige de la fleur séchée, il y avait le nom de là où il se trouvait. Et donc, en regardant un peu plus attentivement les fleurs, elle s'est rendue compte que sur chaque tige, il avait réussi à écrire là où il se trouvait. Et c'était évidemment des fleurs de là où il se trouvait. Et là, alors je crois qu'il est revenu de la guerre, celui-ci, quand même. Et sa fiancée, qui est peut-être devenue son épouse après, a fait un herbier de guerre où elle a collationné toutes ces fleurs qui, en fait, permettent de situer absolument tout le parcours de ce soldat pendant la guerre. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà les moyens qu'ils avaient pour contourner l'éventuelle censure. Il allait écrire tout petit sur sa tige pour dire où il se trouvait.
Et bah, là, vous dites par rapport à ce courrier, et des fleurs comme ça, ça se retrouvait régulièrement ?
Non, on n'a pas tant que ça. Là, ça devait être un amoureux de la nature. Nous, on a une petite fleur dans la correspondance d'Augustin Richaud, mais c'est son fils, en 1931, quand il cherche la tombe de son père dans l'Aisne, hein, à la nécropole nationale de Crouy, qui trouve la tombe, qui cueille une fleur qui a poussé sur la tombe, et la joint à la lettre qu'il envoie à sa maman, qui, elle, est restée à Digne, pour lui dire, voilà, je t'ai cueilli une fleur de la tombe de papa. Et voilà, donc là, on est bien après la guerre. Donc,
Et à ce propos, en parlant de régiments qui étaient sur place, comment, à l'heure actuelle, on peut retrouver des gens qui étaient des aïeux, qui sont morts malheureusement à la guerre, qu'avec un seul nom de régiment, comment c'est possible par rapport à... des gens qui on ne sait pas où ils sont exactement, comment on peut les retrouver pour les descendants.
Alors, il y a un site internet qui s'appelle le Grand Mémorial, hein, qui permet de retrouver énormément d'informations. Et puis nous, par exemple, pour Digne, on a mis en ligne tous nos registres matricules. Hein, vous pouvez savoir où le soldat est décédé. Voilà, non, il y a pas mal de... Si ça intéresse les gens, là, dans le dernier ouvrage que les archives ont publié, qui s'appelle « La Grande Guerre des Bas Alpins », qui fait la synthèse des travaux menés pendant ces 4 dernières années dans le service, il y a justement des liens utiles et les ressources, en fait, pour arriver à pister les soldats et leur lieu de sépulture. Voilà.
Avant de vous retrouver, dans quelques minutes, vous avez mené un disque, comme c'est tradition dans l'émission Histoire d'Archives. Vous avez choisi The Breeders.
Voilà, avec le titre qui s'appelle Cannonball. Donc c'est un petit clin d'œil à la guerre, même si le titre est quand même assez dynamique et tonique, mais c'est pour ne pas abattre le moral de nos auditeurs.
Continuer l'émission Histoire d'Archives avec Laure Franek. Vous voulez parler toujours de ces correspondances qu'il y a pu y avoir entre les poilus et leurs épouses?
Bah, pour illustrer un petit peu la teneur des propos. Alors là, c'est pas une correspondance, ce sont des carnets de guerre qui ont été écrits par un dignois qui s'appelle Paul Roux. J'aurai l'occasion de reparler de ce monsieur parce que sa fille nous a donné des archives le concernant. C'était quelqu'un qui était extrêmement cultivé, c'était un fait libre, qui écrivait très bien, qui s'intéressait à énormément de choses. C'était un randonneur, il a été à l'origine de la création de l'antenne du club alpin français dans les Basses-Alpes. Enfin, voilà. Vraiment quelqu'un de très intéressant, donc je pense qu'on proposera une émission spéciale sur ce monsieur et ses archives.
Bien volontiers.
Mais là, au moins vous lire, pour vous donner un peu... Alors là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui écrit bien, hein. Il travaillait aux hypothèques. Après, sa fille m'a dit qu'il n'avait pas spécialement fait beaucoup d'études, mais voilà, il était très curieux. Il a, dans les archives qu'elle nous a données, en fait, il avait plein de dossiers de travail sur les thèmes qui l'intéressaient. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de lire, de récolter des informations et d'écrire. Et vraiment, du coup, ça donne quelque chose de très, très intéressant. Voilà, donc ces carnets de guerre, là, c'est 1915. Et qui illustre un peu, justement, la question que vous me disiez tout à l'heure, c'est comment on vivait la mort au front. Donc là, il est de la classe 1915, il est incorporé au 173e régiment d'infanterie, et il est fait prisonnier en 1916 à Verdun. Donc là, il écrit le 19 avril 1915. Donc il écrit pour lui-même, hein. Je rappelle, il écrit pas pour quelqu'un. Donc là, du coup, il cherche pas à rassurer. Hein. Tout autour de nous, lorsqu'on est debout, on aperçoit de simples croix de bois qui marquent la place de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui est aussi un champ de solitude, où plane parfois la pensée triste et émue du soldat survivant, frère inconnu du pauvre malheureux. 6 septembre 1915. Il parle des cimetières. Ils s'agrandissent, hélas. Chaque jour, les petits cimetières du front où reposent ceux qui sont morts pour la patrie. On en voit un peu partout de ces tombes. Ils sont simples, ces pauvres cimetières. On n'y voit que de modestes croix de bois sur des tertres de terre rouges. La plupart de ces croix sont blanches. Quelques-unes sont peintes. Elles portent le nom du soldat. J'ai assisté à des inhumations. Là-bas, on apporte le mort sur un brancard. On le dépose tout habillé dans la fosse à côté de ses camarades. On songe au pauvre malheureux. C'est triste. C'est simple. Pas un prêtre pour lui dire une prière. Les visages sont recueillis près de la fosse où repose le frère d'armes inconnu qui vient de verser son sang pour la patrie. La pensée émue et reconnaissante quitte le pauvre soldat, héros obscur, oublié, pas près de Dieu dans l'éternité. 18 octobre 1915. À une centaine de mètres de nos tranchées, on arrive devant des cadavres de soldats. Ils sont trois étendus côte à côte. Quel tableau, pauvre mort, héros oublié, inconnu, et n'ayant même pas pu recevoir une modeste tombe pour dormir votre sommeil éternel, votre dernier repos. Ô martyr du patriotisme tombé devant l'ennemi, vous êtes là, étendu dans l'oubli. Vous faites, hélas, partie de la liste de ceux qu'on appelle les disparus, et jamais personne ne s'est représenté dans l'esprit que vous étiez là. Mais notre pensée est pour vous, à ce moment, et c'est encore pour vous qu'elle monte jusqu'à Dieu. Donc, dans le brouillard silencieux, nous sommes devant ces morts. Ils sont méconnaissables. Donc, c'est le 96e d'infanterie, tué sans doute en septembre 14. Hein, Monsieur Labadie qui a mis une petite note. Nous rentrons ensuite dans les lignes en laissant les pauvres morts que le service de santé pourrait bien faire enlever. Il y aurait là une question de respect et ce serait un travail utile et nécessaire. Mais on laisse sans plus de soucis les choses comme elles sont. C'est malheureux, dit-on, d'un bout à l'autre de la tranchée. Il y a exactement un an que ces morts sont là et il y en a d'autres. Donc, d'où la difficulté après de mettre des noms sur... Les tombes, etc. Hein, comme vous dites, mais on n'avait pas le temps d'enterrer, hein, en tout cas pas. Ou alors on enterrait très 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 vite. 1er novembre 1915. C'est aujourd'hui le jour des morts. On pense à eux. C'est un jour bien triste et le deuil de la nature en cette journée d'automne semble s'associer à cette commémoration plus poignante que jamais. Ma pensée se porte en Provence, à mon pays natal, où reposent mes chers et regrettés disparus. Je prie pour eux. On pense aussi aux soldats morts pour la patrie et à tous les amis. Ils sont nombreux, hélas, ceux qui sont morts pour la France. Combien sont tombés en héros, héros obscurs, parfois comme ceux qui sont encore étendus entre les lignes. Combien ils ont mérité de la patrie, ceux-là et tant d'autres. Que de tristesse, que de deuil, que de larmes. Donc après, on ne sait pas trop quoi dire après ça. Hein, c'est vraiment. Alors il était très croyant, hein, monsieur Roux. Hein, d'ailleurs, dans les archives qu'on nous a remises, il faisait beaucoup de pèlerinages, il écrivait beaucoup de textes, notamment pour le pèlerinage à la chapelle du Cousson. Voilà, donc mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc c'est. Je disais tout à l'heure, ils attendaient beaucoup, mais en plus, ils côtoyaient physiquement les morts. Ça devait être, ils ne pouvaient pas faire abstraction de ça. Et alors, toujours pour rester sur Paul Roux, en 1922 est inauguré le monument aux morts de Digne, qu'on connaît tous, hein, à côté de l'office du tourisme au bout du pont. Et Paul Roux, il était poète aussi. Hein. Et il adorait faire des poèmes acrostiches. Vous savez, les poèmes où quand on... ou les textes, hein, quand on prend la première lettre, en fait, toutes les premières lettres forment une autre phrase. Donc je vais vous lire, il avait écrit pour l'inauguration du monument aux morts, qui a eu lieu le 16 juillet 1922, il avait écrit « Aux morts dignois ». Alors j'espère que les auditeurs arriveront à noter les premières lettres de chaque vers et savoir qu'est-ce qui a marqué. Je le dirai, je donnerai la réponse à la fin. C'est le jeu du matin. Dignois, parti vaillant à l'appel de la France, imitant vos aïeux pour sauver son honneur, guerrier de ce vieux sol qui connut la douleur, nous voici rassemblés sous le ciel de Provence. Élevant en ce jour notre reconnaissance, absents, morts vénérés par un pays vainqueur, sur vos exploits sacrés, sur votre noble cœur, éclate notre amour parmi votre silence. Salut. Salut. Salut à vous, ô soldats, nos poilus, martyrs obscurs, là-bas ardents et résolus, où la guerre grondait nuit et jour infernale. Rayonnant à jamais de gloire et de fierté, toujours apparaîtra votre nom incrusté sur le cher monument de la ville natale. Et alors, il y a écrit, est-ce que Jean-Marc a trouvé ?
Oui, demain.
En fait, quand on ajoute les unes après les autres les premières lettres de chaque vers, il y a écrit « digne à ses morts ».
D'accord.
Voilà. Voilà, Paul Roux, vraiment quelqu'un très intéressant, qui écrit fort bien, comme vous avez pu le constater, et sur lequel on reviendra plus tard. Voilà pour la guerre. Alors juste pour ce qui est des actualités des archives...
Quand vous viendrez plus tard, est-ce qu'il serait judicieux d'amener quelqu'un de ses arrière-petits-enfants?
Sa fille n'habite plus ici, hein. Donc elle habite dans le sud-ouest, donc ça va être difficile. Voilà. Donc juste pour terminer, pour ce qui est de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, donc la dernière conférence de M. Labadie consacrée au bilan humain de la Grande Guerre aura lieu au Vernet, au restaurant L'Inattendu, vendredi 16 novembre à 18h30, et l'entrée est libre toujours. Sinon, les archives départementales organisent avec l'inspection académique et un certain nombre d'écoles et de collèges du département un spectacle qui est un peu la reproduction de ce qui a eu lieu le 11 juin, mais qui sera à destination cette fois non seulement des élèves mais aussi de leurs familles, hein, parce que en juin, les familles n'avaient pas pu assister au spectacle de leurs enfants. Et ça aura lieu au gymnase du lycée Pierre-Gilles de Gênes en novembre, mais c'est pas ouvert au public. Hein. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a eu vraiment un travail mené avec des scolaires en particulier tout au long de l'année, et que ça va être un peu l'aboutissement, et que ça marquera vraiment la clôture des manifestations organisées dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918.
Les manifestations, il y en a eu beaucoup ces derniers temps, que ce soit à Marcoussis, à La Javie, à Digne, le département s'est mobilisé entre eux.
Tout à fait. Oui. Les communes ont chacune tenu, c'est bien normal, à commémorer notamment leur mort. Hein. Quasiment toutes ont fait une cérémonie un petit peu plus élaborée que d'habitude, voire une exposition. Et puis il y a eu de nombreuses conférences, hein, les nôtres, mais pas seulement. Donc c'est le centenaire hein, quand même. Hein. Je pense qu'on reparlera de la Première Guerre mondiale, mais plus de cette manière. Et puis c'était aussi... Il faut aussi comprendre qu'il y a eu cette fameuse grande collecte, hein, cet appel qu'ont fait les archives de France à ce que les familles déposent ou donnent tout objet, tout document relatif à la Grande Guerre. Et ça a fourni un formidable matériau historique qui a été exploité et qui va continuer à l'être, typiquement les correspondances, hein, par exemple, qui n'étaient pas dans les archives publiques, hein, par définition, puisqu'une correspondance, c'est privé, enfin, des correspondances de ce type, en tout cas. Et ça va forcément donner des matières quand même à encore des travaux d'historiens. Mais là, vraiment, je pense qu'on a été au paroxysme des célébrations. Voilà, on reparlera de la Première Guerre mondiale, mais plus de la même manière.
Hein. Dans 100 ans.
Dans 100 ans. Voilà. Et alors, juste pour terminer sur une actualité très différente cette fois, hein, les archives départementales organisent leur troisième journée d'études consacrée à la matière et le bâti. Vous savez, on avait fait, il y a 2 ans, on avait fait une journée consacrée à la pierre. Et cette fois, nous faisons une journée consacrée au bois, aux matériaux bois, au savoir-faire lié au bois, comment on construit en bois dans le département, etc. Donc cette journée aura lieu samedi, 1er décembre. Elle va démarrer à 14h. L'entrée est libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Hein. Les gens peuvent venir vraiment dès 14h sans inscription préalable. Donc juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va entendre, donc nous aurons une présentation. Alors je donne les titres, hein. De l'arbre à la planche en Haute-Provence, fin 17e, 20e siècle. Donc là, c'est vraiment une présentation d'un historien et d'une archiviste sur comment on cultive le bois. c'est pas tout à fait ça, mais
on transforme.
Voilà comment on choisit un arbre, comment on le coupe, comment on le transporte, comment on le transforme, hein, comment les archives livrent un petit peu des informations sur ce sujet. Ensuite, donc ça, ce sera une intervention de Sophie Chouyal, hein, qui est archiviste chez nous, et d'Éric Fabre, qu'on connaît bien, puisqu'il est l'auteur de La vie rurale en Haute-Provence. Ensuite, nous avons l'archiviste de la ville de Manosque, Anne-Rega von Kovenberge, qui va nous faire une présentation sur le bois dans la construction de l'hôpital Sainte-Barbe de Manosque. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Monsieur Labadie, directeur des archives départementales, va expliquer les usages du bois et du feu, une difficile cohabitation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des incendies très ravageurs, et notamment au village de Célonnet, au tournant des 19e et 20e siècles. Et voilà, et comment on arrive à faire cohabiter la gestion du bois, les constructions en bois et ces incendies qui sont très fréquents, puisque évidemment, on utilise le feu dans le quotidien.
Et le choix de l'hôpital Sainte-Barbe, il est en corrélation avec le feu ? C'est fait exprès ?
C'est une bonne question, j'en sais rien. Non, je sais pas. Faudra poser la question à Anne Rega. J'en sais rien du tout. Ensuite, nous avons Monsieur Roux, Alain Roux, qui est le trésorier de l'association syndicale libre de Serpegier. Alors c'est un syndicat libre qui assure la gestion collective des bois à Thorame-Haute depuis la Révolution. Cette association existe toujours, et il va nous parler un petit peu des buts de cette association, hein, qui est vraiment l'entraide, la gestion des bois, comment survenir aux catastrophes, quelles réponses on apporte quand il y a un incendie justement de forêt. Ou un incendie dans les maisons des propriétaires des forêts. Donc c'est vraiment une société d'entraide. Hein. Et surtout, il va nous présenter l'association a un registre depuis la Révolution française qui continue à compléter, où il consigne absolument tous les événements qui ont lieu, toutes les décisions qu'ils prennent. Et donc c'est vraiment une formidable photographie de comment on a géré les bois à Thorame-Haute depuis la Révolution.
Et de ces bois, il y a des essences qui étaient importées, parce qu'il y a des essences de bois qui ne sont pas natives des Alpes de Haute-Provence, c'est mentionné.
Mais écoutez, on posera la question à M. Roux le 1er décembre, parce que j'avoue que je n'en sais rien encore. Il nous a juste montré très rapidement son registre, on lui a dit que c'était vraiment passionnant, on l'a invité à communiquer à l'occasion de cette journée, parce qu'en fait, c'est un document qui est très peu connu. Comme c'est entre mains privées, en plus peu de gens y ont accès, mais il serait tout à fait d'accord en fait pour qu'il y ait un historien qui exploite les informations. Ensuite, Jean Arnoux et Annie Massot, qui sont membres de l'association Atelier Créatif du Sisteron-Nez, vont venir nous parler de l'art du charron et du menuisier. Et vont évoquer comment on fait une roue de charrette, mais aussi une commode, quel outillage et les savoir-faire on a au XIXe siècle, en faisant un petit focus particulier sur Sisteron, bien sûr, hein, puisque l'association est de là-bas, et notamment travail du charron, Monsieur Grasset, qui était installé porte Dauphine à Sisteron, et celui du menuisier Sixte Mout, qui lui vivait au 1 rue de la Chapuzie. Donc là, Sisteronais venaient nombreux. 1er décembre.
Et n'allez pas Porte Dauphine à Paris, surtout.
Non. Ensuite, Bernard Renoux, qui est un chercheur indépendant, qui fait partie du projet collectif de recherche sur Senez, va nous parler des ponts de bois et des ponts de pierre, comment on pouvait traverser l'As au XVIIe et XVIIIe siècle entre Blieux et Chabrières. Et pour finir, nous avons deux dendrochronologues. Vous savez, ces gens qui étudient de manière très scientifique les cernes de bois pour comprendre et leur âge et aussi les aléas climatiques, etc. La première s'appelle Lisa Shindo. Elle est chercheure associée au Centre Camille Julian à l'Université Aix-en-Provence, chercheure au CNRS. Elle va parler du bois de construction et des ressources forestières dans la vallée de Bléone du 15e au 20e siècle. C'est le sujet de sa thèse. et le second, docteur en archéologie et en dendrochronologie, qui lui aussi chercheur au CNRS, s'appelle Vincent Labat, et lui va nous parler des résultats des recherches récentes en archéologie et en dendrochronologie sur le bâti dans la haute vallée du Verdon, qui a livré des résultats sur la période 15e, début 20e siècle. Voilà, donc un programme très riche qui va nous permettre d'appréhender le bois vraiment sous toutes ses facettes, de la science la plus dure jusqu'à comment on fabrique simplement des objets en bois. Donc ça, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront, et notamment on aimerait bien qu'il y ait des professionnels, hein, des gens, des menuisiers, des gens ou des amateurs qui aiment le bois, qui nous apportent aussi leur... parce que le but de ces études, c'est quand même l'échange. Hein, on délivre pas une connaissance, on aimerait bien qu'il y ait un échange. Et d'ailleurs, il y a des temps d'échange qui seront réservés pour cela. Voilà, toutes les informations, comme d'habitude, sur le site archives04.fr. C'est l'actualité est régulièrement mise à jour. Voilà.
Bien, Laure. Ben, merci à vous. Prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 20 décembre prochain. Nous serons la Sainte-Théophile, voilà, juste avant les vacances d'hiver.
Tout à fait.
Voilà. Merci.
Merci, Jean-Marc.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.